Le journal est présenté par Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Une intrusion violente a eu lieu hier au siège de la CFDT, ciblée par des manifestants au 44e jour du mouvement de contestation contre la réforme des retraites, alors que le syndicat réformiste appelle au dialogue avec le gouvernement. Précision à suivre avec Annabelle Grelier.
Alors que la journée a été marquée par plusieurs actions coup de poing.
Hier soir, une trentaine de personnes a tenté d'entrer dans le théâtre où Emmanuel Macron assistait à une représentation dans le 10e arrondissement de Paris. Est-ce le début d'un nouveau cycle d'actions inspirées des Gilets jaunes, analysera Stéphane Robert.
Une conférence internationale demain à Berlin pour tenter de trouver une sortie de la crise en Libye.
Qui sera autour de la table? Quel est l'équilibre des forces? Réponse avec Claude Guibal. Puis Jean-Paul Gaultier annonce son dernier défilé à 67 ans. L'icône de la mode mettra fin à 50 ans de carrière. On y reviendra. Et puis votre invité, Caroline?
C'est le nouveau titulaire de la chaire annuelle de santé publique au Collège de France, le médecin et anthropologue Didier Fassin.
Des opposants à la réforme des retraites ont fait irruption hier au siège de la CFDT à Paris au 45e jour du mouvement de contestation. Le dirigeant du syndicat réformiste appelle au dialogue avec le gouvernement sur les modalités du futur système de retraite par points et a dénoncé hier une agression violente quand toutes les organisations syndicales, elles aussi, ont dénoncé ce recours à la force. Annabelle Grelier.
C'est Laurent Berger lui-même qui a dénoncé l'incident sur Twitter. « Ils ont agressé verbalement et physiquement des salariés de la CFDT », a-t-il écrit. « Nous condamnons cet acte et nous ne nous laisserons pas intimider », a-t-il poursuivi. Anas Kazib, cheminot à Paris Nord, participait à cette action revendiquée par la coordination SNCF-RATP, mais il dément toute violence. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent en effet des militants pénétrer dans les locaux dans le 19e arrondissement et chanter notamment « On est là, sans débordement ».
Laurent Berger n'a pas décidé à la place des grévistes. C'est ce qu'on est venu dire aujourd'hui. On était, il y a quasiment 80% des gens sont non syndiqués qui étaient là. Il y a même des ex-militants de la CFDT qui étaient parmi nous, qui ont jeté leur carte. Je dis ex-militants parce qu'ils ont jeté leur carte la semaine dernière justement en voyant la décision de la CFDT. Donc c'était de dire voilà, la souveraineté revient aux assemblées générales, c'est aux grévistes en âgé de décider tout simplement. C'est ça la démocratie pour nous.
D'autres actions ont eu lieu dans la capitale. À la pyramide du Louvre, une centaine de manifestants ont bloqué l'entrée aux touristes. Des avocats de leur côté ont perturbé les audiences solennelles de rentrée des cours d'appel. Des actions surprises qui vont se multiplier dans les prochains jours, visant particulièrement les membres du gouvernement et les candidats aux élections municipales. Prévenus d'une action prochaine de la CGT contre la réforme des retraites, le ministère de la Culture a d'ores et déjà annoncé l'annulation de la cérémonie des vœux de Franck Riester qui devait se dérouler lundi à Paris.
Annabelle Grelier, Emmanuel Macron hier a dénoncé une honte pour notre démocratie, donc cette intrusion dans les locaux de la CFDT à Paris. Alors que le chef de l'État a été directement visé par une action quelques heures plus tard, il assistait à une représentation au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris, quand une trentaine de manifestants a tenté de faire irruption. Taha Bouaf, qui se présente comme un journaliste des luttes, avait fait circuler sur Twitter des images du chef de l'État qui se trouvait à quelques mètres de lui dans la salle. Il a été interpellé par la police. Le président de la République a été évacué avant de revenir assister à la fin de la pièce. Assiste-t-on à une radicalisation du mouvement contre la réforme des retraites qui accompagne une baisse de la mobilisation? Élément de réponse avec Stéphane Robert.
Malgré une mobilisation en perte de vitesse, le conflit contre la réforme des retraites pourrait-il s'installer dans la durée et générer des coups d'éclat dans les semaines à venir de la part de groupes de syndicalistes radicalisés? Autrement dit, pourrait-on assister à une gilet jaunisation du mouvement contre la réforme des retraites? C'est une possibilité, estimait il y a quelques jours sur France Culture le politologue Olivier Roucan.
Les syndicats se sont bien adaptés aux enseignements tirés de la crise des gilets jaunes. Même avec peu de grévistes, il y a une capacité à occuper le terrain, et je dirais même les terrains. C'est une stratégie de harcèlement et de visibilité qui a été totalement apprivoisée par les syndicats. Et c'est ce qui fait la durabilité, même avec moins de monde, de ce type de mobilisation.
On peut avancer plusieurs explications à ce phénomène. D'abord, les grévistes ont certainement constaté avec le conflit des gilets jaunes que la violence paie. L'exécutif avait concédé une enveloppe de plus de 10 milliards d'euros l'hiver dernier. Ensuite, la durée de ce conflit fait que les salariés qui, derrière Force ouvrière, Sud et la CGT, ont le plus contribué en termes de jours de mobilisation, peuvent avoir le sentiment de n'être pas payés à la hauteur de leur implication. Leur frustration se transforme dès lors en colère et en violence. Enfin, sur une considération de plus long terme, on peut estimer que l'estompement du clivage droite-gauche, qui révèle une dépolitisation de la société française, renforce un clivage beaucoup plus ancien et potentiellement beaucoup plus violent entre le peuple et les élites, un peu comme si on revenait au temps d'avant la période révolutionnaire.
Stéphane Robert, une interview plus en longueur du politologue Olivier Roucan est à retrouver sur notre site internet franceculture.fr.
Une délégation de médecins a été reçue hier soir par la ministre de la Santé.
Ils espéraient, ces médecins, l'ouverture de négociations après l'envoi d'une lettre de démission collective de près de 1200 d'entre eux envoyée à Agnès Buzyn pour réclamer une hausse du budget de l'hôpital, notamment. Mais la ministre de la Santé n'a pas formulé de nouvelles propositions hier, à la sortie déception, notamment pour Xavier Mariette, chef de service à l'hôpital Bicêtre, au micro de Véronique Julia.
Elle n'a pas du tout compris l'urgence de la situation aujourd'hui. Et c'est ça qui nous attriste. Et c'est pour ça qu'elle continue à camper sur les mesures qu'elle a proposées au mois de novembre et qui manifestement ne suffisent pas à rendre la confiance à tous les personnels. Elle ne voit pas l'hôpital s'écrouler. Elle pense qu'il y a des domaines qui sont en grande souffrance. Elle n'a pas compris, je crois, peut-être parce qu'elle n'y est plus depuis longtemps, comment l'ensemble de l'hôpital souffre aujourd'hui. Et ce qu'elle nous propose, c'est finalement, même si le diagnostic finalement est assez commun, elle nous propose un traitement au rabais, un traitement qui est un sparadrap, alors qu'on a vraiment besoin de mesures symboliques pour que l'ensemble du personnel réadhère au projet de l'hôpital public.
Professeur Xavier Mariette au micro de Véronique Julia. Didier Fassin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'invité des matins du samedi avec nous ce matin. Vous êtes médecin, anthropologue, titulaire d'une chaire annuelle de santé publique au Collège de France. Quel regard portez-vous sur cette crise de l'hôpital public et sur la réponse du gouvernement?
On a affaire à une situation qui s'est dégradée depuis plusieurs années, avec une accélération depuis 2-3 ans, une diminution des personnels, donc un travail plus intense, des démissions en chaîne dans certaines catégories et notamment les infirmières, des ressources qui diminuent et qui obligent à la fermeture de lits, à la fermeture de blocs opératoires. Donc un dysfonctionnement général, et pour les gens qui restent à l'hôpital pour y travailler, pour y défendre les droits des malades, une situation qui devient de plus en plus difficile à supporter. Mais je crois que derrière ces problèmes que dénoncent aujourd'hui les médecins, il y a très probablement une réorientation du système hospitalier en France, c'est-à-dire la volonté du gouvernement d'affaiblir le service public qui est en train de se dégrader, qui devient de moins en moins attractif aussi bien pour les médecins que pour les personnels paramédicaux, avec un détournement des patients qui en ont les moyens vers le service public, le service privé, pardon. Et ça, c'est une chose que on a vu se produire dans d'autres pays, notamment les États-Unis.
Merci Didier Fassin de rester avec nous pour votre interview tout à l'heure, juste après ce journal dans les matins du samedi. 47e jour de grève à l'appel de la CGT à Radio France contre le plan d'économie qui prévoit la suppression de 299 postes. Le mouvement a été reconduit hier en Assemblée Générale jusqu'à lundi. La pétition en ligne atteint près de 200 000 signatures.
France Culture, 8h08, suite du journal. Une conférence internationale aura lieu demain à Berlin pour tenter de trouver une sortie de crise en Libye.
Mais depuis une semaine, un fragile cessez-le-feu a permis à la diplomatie de s'activer pour espérer conclure un accord entre les deux frères ennemis libyens, le Premier ministre Al-Sarraj et le maréchal rebelle Haftar, chacun soutenu par des alliés internationaux qui ont fait de la Libye le théâtre d'une guerre par procuration, aujourd'hui devenue explosive. Les explications de Claude Guibal.
Berlin, Paris, Ankara, Moscou, dans les couloirs de la diplomatie, on ne relâche aucun effort, ne pas rater l'opportunité d'obliger demain à Berlin les deux ennemis libyens à signer un accord. Fawaz al-Sarraj, le chef élu du gouvernement d'Union nationale, et son rival, le maréchal Haftar, ne se sont pas retrouvés face à face depuis le début de la bataille de Tripoli. Khalifa Haftar contrôle aujourd'hui près de 80% du pays. Fort du soutien et des armes de ses alliés, les Émirats arabes unis, il a claqué la semaine dernière la porte de négociations pourtant organisées par un autre de ses parrains, le puissant Vladimir Poutine. Car en face, il lui faut compter avec la détermination de la Turquie de Recep Tayyip Erdogan, venue désormais militairement au secours de Fawaz al-Sarraj. Et c'est la Turquie qui aurait réclamé des conditions supplémentaires avant de signer un cessez-le-feu de la part d'Haftar lors des discussions de Moscou, provoquant la fureur de celui-ci, parti sans rien signer. Alors, à en croire les diplomates, les textes présentés demain seraient déjà consensuels. Un cessez-le-feu, le respect de l'embargo, rien de nouveau en fait, ne manque qu'une chose, faire passer les engagements des paroles aux actes.
Au Liban, des centaines de personnes ont de nouveau manifesté hier près du Parlement et de la Banque centrale à Beyrouth, alors que le pays entre dans son quatrième mois de contestation depuis le début du mouvement le 17 octobre dernier. Un mouvement d'une ampleur inédite dans le pays pour dénoncer la grave crise économique et une classe politique accusée de corruption et d'incompétence. Au Brésil, le secrétaire d'État à la culture a été limogé après avoir diffusé une vidéo peuplée de références au nazisme. L'indignation a dépassé les frontières du Brésil, notamment en Allemagne et en Israël, et a obligé le président à se séparer de celui qui menait pour lui-même, Jair Bolsonaro, ce qu'il a nommé une guerre culturelle, Anne Vignard.
C'est toujours avec beaucoup d'éloges que le président Bolsonaro présentait son secrétaire d'État à la culture, comme ce jeudi soir, alors qu'il participait au Facebook Live du président.
À mes côtés, notre secrétaire à la culture. Nous avons enfin un vrai secrétaire à la culture qui répond aux intérêts de la majorité de la population brésilienne, une population conservatrice et chrétienne.
Roberto Alvim dénigrait la culture actuelle et voulait en effet en promouvoir une autre, comme il le disait justement dans la vidéo qui a provoqué sa démission.
Nous voulons une culture dynamique, enracinée dans la noblesse de nos mythes fondateurs, la patrie, la famille et son lien profond avec Dieu.
Jusque-là, rien de bien nouveau, mais ce qui suit par contre est une reprise quasi mot pour mot d'une phrase du ministre de la propagande de Hitler, Joseph Goebbels, en 1933.
L'art brésilien de la prochaine décennie sera héroïque et national, lié aux aspirations urgentes de notre peuple, ou ne sera pas.
Le tout avec en fond sonore un opéra de Wagner, le compositeur préféré de Hitler, et dans un décor à l'esthétique très fasciste. Le secrétaire d'État s'est défendu en disant que tout n'était qu'une malheureuse coïncidence, mais personne, même pas le président Bolsonaro, ne l'a vraiment cru.
Anne Vignard à Rio de Janeiro pour France Culture. Direction maintenant la Chine, où une deuxième personne est morte dans l'épidémie de pneumonie apparue dans le pays. Il s'agit d'un homme de 69 ans. Il a succombé à cette maladie qui reste encore assez mystérieuse dans le centre du pays. L'Organisation mondiale de la santé prévient qu'une épidémie plus vaste est envisageable. Reportage à Pékin, signé Dominique André.
Dans cet hôpital du sud de Pékin, le docteur Cheng, pneumologue, conseille aux visiteurs de porter un masque, de se laver les mains et de faire cuire les aliments. La crainte, c'est une épidémie de type SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère qui avait tué 650 personnes en 2002. En plus des deux patients morts, 41 malades ont été détectés à Wuhan, où une enquête locale est menée. Les hôpitaux sont en alerte en Chine, mais il ne faut pas paniquer, affirme le docteur Cheng, pour qui les leçons du SRAS ont été tirées.
Quand on voit un patient qui a de la fièvre, on lui demande en priorité « Est-ce que tu es allé à Wuhan ?» C'est une maladie respiratoire qui peut être contagieuse. On s'inquiète qu'elle puisse se propager comme ça a été le cas pour le SRAS, dont on avait perdu le contrôle au début. On en a tiré les leçons pour que la maladie ne devienne pas une épidémie. La surveillance à Pékin est très stricte parce que c'est la capitale. Les autres grandes villes contrôlent aussi parce que nous sommes en ce moment dans une grande période de voyage.
La semaine qui vient est sensible. Des centaines de millions de Chinois vont se déplacer pour le nouvel an lunaire en Chine, mais aussi en Asie. Aucune restriction au déplacement dans le pays n'est annoncée.
Ce matin, plusieurs scientifiques redoutent des centaines de contaminations possibles dans le pays. Jean-Paul Gaultier va défiler pour la dernière fois mercredi. C'est le créateur lui-même qui l'a annoncé dans un tweet hier soir. Le créateur de 67 ans mettra donc fin ainsi à 50 ans de carrière sur les podiums, Sophie Auvigne.
Jean-Paul Gaultier n'a pas choisi de publier un communiqué classique, il a opté pour une vidéo diffusée sur Twitter, d'abord pour évoquer son défilé haute couture.
Salut, c'est Jean-Paul Gaultier. Je t'invite pour mes 50 ans de carrière au Théâtre du Châtelet le 22 janvier.
Mais quelques secondes plus tard, la coupe théâtre, ce n'est pas un simple défilé, ni un banal anniversaire.
Et alors là, maintenant, je vais te dire un scoop. Ça va être mon dernier défilé de couture. Mais je te rassure, Gaultier Paris continuera, la haute couture va continuer. J'ai un nouveau concept, je te raconterai tout ça.
Bon, pour l'instant, on n'en saura pas plus. Ce n'est pas la première fois que Jean-Paul Gaultier fait une annonce fracassante. Il y a 6 ans déjà, il avait saisi tout le monde en mettant fin à sa ligne de prêt-à-porter après quasiment 40 défilés. Et puis le couturier a également surpris en créant l'an dernier un véritable spectacle aux Folies Bergères, The Fashion Freak Show. Un rêve de gosse, a reconnu Jean-Paul Gaultier. Alors là, cette jeunesse, ça c'est vraiment ce qui caractérise le créateur. Son rire, ces mélanges malicieux de formes, de couleurs, de genres, et donc ça devrait continuer sous une autre forme à 67 ans passés.
La météo, un temps plus frais mais sec annoncé pour aujourd'hui, de belles éclaircies sur la majeure partie du territoire. Les températures sont comprises ce matin en moyenne entre moins 1 et 12 degrés, moins 1 degré à Annecy, 4 degrés ce sera pour Lyon, 5 à Paris, 12 degrés maximum pour la Corse et pour Nice.